Nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et dans les joies du direct retrouvé, parce qu'à cause du Covid, pendant longtemps, on a fait les émissions en différé et petit à petit, on retrouve nos vieilles habitudes. Et donc, La vie est un roman qui avant passait à 9h du matin, passe maintenant à 11h du matin. Et ce matin, nous avons un invité totalement exceptionnel. C'est une grande joie pour nous de le recevoir, l'invité étant moi-même. Car je viens de sortir un petit livre qui s'appelle « 37 conseils pour réussir à ne surtout pas écrire un livre » que je vous recommande évidemment chaudement et que vous pouvez acheter sur Amazon sans aucun problème, qui coûte un prix modique. Et pour cette interview, nous avons la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir Frédéric Gournay.
Bonjour Yves.
Et voilà, donc je vais lui passer la parole à toi Frédéric.
Alors Yves, effectivement, tu viens de sortir un petit livre qui est petit dans le format, mais qui est dense dans le propos, et qui s'appelle donc « 37 conseils pour réussir à ne surtout pas écrire un livre ». Alors moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis demandé si tu faisais œuvre de charité ou de sadisme. Qu'est-ce qui te prend de vouloir à ce point de vouloir détourner les jeunes auteurs de leur vocation ?
Bon, mais déjà, comme je fais une émission littéraire, je reçois beaucoup de livres. Et c'est amusant d'ailleurs parce que mon émission s'appelle « La vie est un roman », mais je parle très très peu de romans. Et c'est un genre qui m'ennuie en fait, et la majorité des romans que je reçois sont fadas et auraient mérité de ne pas être écrits. Bon, ça c'est un des aspects de la problématique. L'autre aspect, c'est que l'éditeur me l'a commandé et que cette impulsion était excellente. Et un troisième aspect, c'est aussi toujours une autodiscussion sur le fait pourquoi tu fais ça, donc parce qu'il y a vraiment toujours cette interrogation qui est à la fois esthétique, éthique, existentielle, sur le pourquoi du comment. Enfin, s'il y a bien des questions qui sont existentielles, c'est celle-là. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? Est-ce qu'on a la légitimité de faire les choses ? Et surtout, est-ce qu'il y a des retours qui valent la peine de l'investissement qu'on a pris ? J'ai une idée, j'avais lu ça dans Barthes. Barthes disait, donc Roland Barthes, hein, c'était un espèce de sémiologue à l'époque, comme ça s'appelait, à toute l'époque des années 70, quand les sciences humaines étaient à la mode, qui écrivait des livres assez très très brillants, et qui disait, on écrit parce qu'on a beaucoup lu. Et c'est un petit peu ça mon idée de l'écriture, c'est de payer sa tournée. C'est si j'aurai un reproche à me faire ou quelque chose qui me titille, c'est est-ce que j'ai toujours payé ma tournée quand c'était mon tour de payer ma tournée ? Et parce qu'on était des gros lecteurs, enfin, pour survivre dans des conditions difficiles, des enfances quand même des fois assez pénibles, on lisait beaucoup, même enfermé aux chiottes la nuit avec la petite veilleuse rouge, là. Et donc, on lit, puis à un moment, ça va quoi, de consommer. Il y en a marre, quoi. Quand on a lu toute la grande littérature russe, toute la grande littérature américaine, toute la littérature un peu pédante française du 19e et du 20e siècle, enfin, encore qu'il y a le photo. Quand on pense qu'on a lu des choses aussi invraisemblables que Le Juif errant de Jeanne Sue, qui est totalement illisible. Donc on passe sa vie à lire. Donc il y a un moment, il faut écrire.
Alors tu te sentais que c'était à toi d'écrire ? C'était quoi ? Un sentiment de dette ou de reconnaissance, de gratitude ?
C'est un sentiment de dette, un sentiment... Et puis aussi de voir si j'étais à les couilles, quoi, de rentrer dans la partie.
D'accord.
C'est un peu facile, toujours, de regarder les matchs et tout ça. Il faut descendre sur le terrain. Ben, par exemple, moi qui ne suis pas du tout sportif, qui ai détesté la gymnastique suédoise quand j'étais à l'école, ça m'est arrivé de jouer au football et j'en ai des souvenirs inoubliables. Surtout que ça ne m'est pas arrivé souvent. Et c'est chaque fois dans des circonstances invraisemblables, absolument inouïes. Je pourrais dire que mes expériences d'écriture ont cette même valeur pratiquement. Encore que, alors il faudrait poser la question de la légitimité. Il y a quand même quelque chose qui est compliqué, c'est est-ce qu'il faut désavouer le prolétariat de l'art ? Je pense que je l'ai écrit dans le texte parce que c'est une de mes idées fixes. Est-ce qu'il faut 100 000 peintres pour faire un Picasso ? Ça, c'est un problème. Est-ce qu'il
Ou 10 000 écrivains pour faire un Nabokov, tu écris.
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut massacrer les gens pour
Alors ça serait pire que du... C'est un darwinisme terrible, c'est pire que... Encore plus sélectif que le système capitaliste le plus effréné.
Oui, c'est un peu ça, oui, c'est ça. Et puis, on a ces cas de... Par exemple, il y avait un livre très célèbre sur un garçon obèse qui se suicide et sa mère arrive à quand même publier le livre et le livre est un grand succès. Enfin, cette espèce, ça, c'est très darwinien, en fait. Mmh. C'est, il y a quelque chose de cet ordre-là et donc la récompense arrive... On a ces vies quand même. Puis c'est assez émouvant, quoi, si on prend, je ne sais pas, moi, les velléités de faire des pièces de théâtre de Flaubert ou de Stendhal, mm-hmm. pour prendre les deux écrivains du 19e siècle, mm-hmm. c'est extrêmement touchant. C'est cette maladresse, ils sont vraiment très mauvais. Leur théâtre est totalement mm-hmm. illisible. Moi, j'ai bossé, je ne sais pas, d'ailleurs à cause d'une émission à la radio ici, sur une nouvelle de Balzac qui est tellement mal écrite que c'est à se tirer des balles, on n'arrive mmh. pas à y croire. Il rabioche des textes qu'il a écrits sur 20 ans pratiquement, et c'était une usine à produire, et il s'occupait. Ce qui l'intéressait, c'était autre chose. Enfin, c'est pas vrai en même temps. Parce que,
mais tu rappelles d'ailleurs un conseil, tu dis qu'il faut lire les mauvais livres, comme ça, ça encourage à donner envie d'écrire, parce que si on lit que des chefs-d'œuvre, ça décourage tout de suite.
Ben, c'est une idée de Léoto. Hein. Voilà. Léoto dit les bons livres sidèrent. Et Léoto est le grand styliste de la première moitié du XXe siècle. Mais là aussi, l'œuvre écrite, le petit ami de Léoto est le seul livre qu'il ait vraiment écrit. C'est sur sa mère, et parce que sa mère ne s'est pas occupée de lui. Il a grandi avec son père qui était souffleur à la Comédie-Française. Et donc, il voyait sa mère un peu comme une pute, quoi, comme une courtisane. Et, mmh. et il l'aimait beaucoup, parce qu'on aime beaucoup sa maman. Quand on est petit, on en a besoin. Mmh. Et quand elle est un peu sadique et qu'elle nous néglige, tout ça, donc l'affectivité est encore plus forte. Et donc, les livres de Léoto, ce sont des petits textes et tout, mais il écrivait tout le temps. Et je suis un petit peu dans la même pratique, d'ailleurs, parce que j'ai pratiqué le journalisme toute ma vie. Et c'est toujours aussi difficile pour moi. Ma prochaine pige m'angoisse toujours autant. Je n'ai pas de retour. On est dans un tunnel. Donc, il y a...
Est-ce que ça veut dire que l'écriture... Est-ce que l'écriture, c'est si grave que ça? Est-ce que c'est une question de vie ou de mort?
C'est... Bon, mais c'est un petit peu son rapport à soi, quoi. Est-ce que son rapport à soi... Ça peut être n'importe quoi, en fait, à ce niveau-là. Si on le prend au niveau existentiel, c'est pas dans l'écriture que ça se vérifie. C'est dans les retours, c'est dans son rapport au monde. Et donc, on aurait tendance à... Bon, on a quand même une vision très romantique de ce genre de choses.
Enfin, en France, c'est très sérieux. Ça pèse beaucoup. C'est très, il y a quelque chose de très pesant, effectivement, quand on veut écrire en France, quand on a la prétention de vouloir être écrivain, on est tout de suite mis en garde. Il y a attention.
En même temps, la France est très scolaire. Par exemple, la génération de gens dans laquelle moi j'ai été éduqué, c'est-à-dire Valéry, Gide, Claudel, toutes ces générations-là, mmh. c'est des bons élèves, quoi. C'est du niveau d'une bonne disserte au lycée. Et donc, les écrivains romantiques, c'est pas du tout les Français qui sont pédants, par définition. C'est les Américains et les Russes. Le modèle qu'on a tous, c'est Bukowski. Mmh. Et c'est transgénérationnel. Ouais. Et moi, mon éditeur de Mediapop, qui m'a édité 5 ou 6 livres, il me voit comme Bukowski. Il voudrait me transformer en Bukowski, je veux dire.
T'as arrêté de boire.
Voilà, exactement. Et il aurait été content si je me droguais. Ouais. J'aurais correspondu au modèle. Et le modèle avec lequel j'ai grandi et auquel les gens m'identifiaient quand je n'écrivais pas, et c'était d'une ironie folle, c'est Henri Miller. Ouais. Et donc, c'est la dimension du sexe aussi. Mmh. Et donc, mais dans une dimension totalement transgressive. C'est-à-dire qu'on est à quatre pattes, ça se passe dans un parc au-dessus d'une flaque d'eau. Mmh, mmh. C'est pas dans le confort d'un petit hôtel à Roissy. Là,
aussi,
c'est dangereux.
Tu parles aussi d'écrivains qui ont beaucoup fréquenté les bars, qui ont beaucoup bu, qui ont lu plus encore qu'ils ont bu, mais ils ont quand même écrit là-dessus. Donc tu viens aussi de là, de ce monde-là, du monde de la nuit, des bars. Et c'est pour ça qu'on voit automatiquement quelqu'un qui écrit et qui fréquente comme ça la nuit. On le voit forcément comme un auteur américain, alors qu'en France, on avait aussi nos auteurs alcooliques.
Mais on est quand même dans les disciplines scolaires, dans l'Académie française, au service de l'État, quoi. Enfin, il y a quand même quelque chose de bons élèves. La littérature française est une putain de littérature de bons élèves. Alors, moi qui suis belge et qui suis bruxellois, j'ai dû me délivrer du patois, on va dire, d'un parler qui nous apparaissait un peu comme bourbeux. Et j'étais très très marqué. J'ai passé par toutes les phases possibles et imaginaires. Mais en Belgique, on n'a pas le droit de parler bien. C'est vu justement comme du pédantisme. D'accord. Et on doit faire des fautes dans les noms propres, par exemple. C'est bien vu. C'est une marque de politesse. Mais
alors, ce qui m'étonne, c'est que tu oublies de citer quand même Céline, qui est quand même très important. Oui. Pour nous, et qui justement revient à cette langue très populaire, très châtiée, avec énormément d'argot, des tourneurs de phrases totalement incorrects au niveau littéraire, et qui pourtant font toute son authenticité et sa force d'écriture.
C'est un bon exemple dans l'aphorisme de Léoto, c'est sidérant. Et c'est une très mauvaise influence, donc on ne peut être que caricatural. Alors que les Américains ont quelque chose de fraternel, et ils sont très nombreux. Ça m'est arrivé, un mec qui s'appelle Volman, par exemple, qui écrit un truc sur des putes, c'est vachement bien. C'est très fréquent, un bon écrivain américain, parce que c'est comme relativement facile, il n'a qu'à payer au niveau de l'existence, et puis écrire tout le temps. En fait, il y a une espèce d'image comme ça qui est faite. Pour les Russes, c'est beaucoup plus contrasté. Par exemple, il y a très peu de passerelles entre Tchekhov et Dostoïevski qui sont contemporains. Ils ont l'air d'appartenir, enfin, ils appartiennent. Il y en a un qui est médecin et l'autre qui est joueur, qui va au casino. Enfin, il y en a un qui est un voyou, en fait, et l'autre qui est un notable. Et alors, on prend Tolstoï. Alors là, ça devient vraiment terrifiant. Comment est-ce que c'est possible que ce soit une seule personne, en fait? C'est quand même c'est un truc de fou. Et les époques dans la vie de Tolstoï et puis la fin de Tolstoï, enfin, la figure christique de Tolstoï, c'est une dimension... moi, je ne lis pas Claudel, par exemple. J'ai lu une nouvelle de Vian qui disait que c'était mauvais pour les érections, que c'était l'idéal si on ne voulait pas avoir d'érection.
Après, tu peux citer Bernanos. Là, c'est déjà plus proche de Céline.
Oui, oui. Alors, le problème, c'est aussi toute cette littérature aphoristique qui me sort par les trous de nez. Bernanos ou Peggy ou ces choses-là, mais ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Je trouve ça très poseur. Tous les chardonnes, les... Alors évidemment, il manque une dimension existentielle à Morand, par exemple. Mais enfin, peu importe, vas-y.
Et donc,
qu'on explique ce qu'il y a dans le 37
voilà
conseils.
Voilà, ce qu'il y a dans, on va parler du livre. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu en profites pour aborder le problème sous tous les angles, selon tous les points de vue. Donc, il y a un point de vue qui est à la fois psychologique, méthodologique, historique, sociologique. Tu essaies vraiment d'envisager sous toutes les coutures, j'allais dire, le livre. Donc, par exemple, au niveau psychologique, tu mets bien en garde de ce que c'est d'écrire.
Oui, donc c'est dangereux, évidemment, parce qu'on vérifie ses limites. Et c'est justement pour ça qu'il faudrait éviter d'écrire des livres qui sécurisent, parce que ça ne sert à rien. Donc, on rajoute un livre si c'est un hobby. Et bon, c'est vrai, hein, je veux dire, il y a les ateliers d'écriture, tout ça, enfin, c'est vraiment... Et les gens sont assez touchants dans leur... Il ferait mieux de faire de l'aquagym ou du yoga, ça serait mieux, quoi. Parce que ça pollue pas, quoi. Il y a quand même, à un moment donné, il va falloir faire attention.
Parce que ce livre, il prend l'apparence d'un petit livre de développement personnel, mais le contre-pied que totalement du développement personnel. C'est-à-dire que maintenant, on nous dit, oui, écrivez, ça va vous faire du bien, mettez sur papier vos émotions, vous pouvez vous éditer, vous faire auto-éditer. Donc, il y a ce côté-là de développement égoïste, narcissique, qui se prolonge, qui continue. Et donc, ce livre, c'est vraiment l'exact opposé, en fait. Tu essaies de décourager les gens d'écrire, et puis et surtout qu'ils prennent la mesure de ce que c'est. Donc, tu abordes d'un point de vue psychologique, mais aussi méthodologique. Tu as réfléchi aussi comment les auteurs travaillent.
Ben oui, c'est une... Mais justement, il faut que ça insécurise. Et tout, qu'est-ce que fait un atelier d'écriture? C'est sécuriser, en fait. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des boulots de bons élèves. Mais on s'en fout des bons élèves. Ce qui nous intéresse, c'est les cancres. On n'a rien à foutre. Ici, par exemple, on est sur une radio libre. Et l'ambition des membres de cette radio, c'est de faire comme si c'était une vraie radio. Et par exemple, mon point de vue est exactement à l'inverse. mon idée, c'est qu'il faudrait tout déformater et que ça soit chaque émission a une très forte personnalité. Ça a eu lieu, hein, à part ça. Et les gens se font chaque fois vider, donc il y a eu... Ça... Eh ben, par exemple, c'est bien, oui. Donc cette radio a comme adjectif libre, donc ça attire des gens qui ont des personnalités quand même assez déviantes, et ils sont vidés au bout d'un moment. Il y a toujours... le groupe a une tendance à normaliser ses participants et à ne pas aimer les sorties de route.
Et, donc, et tu crois que le monde de l'édition, c'est pareil en France ?
Je ne connais pas le monde de l'édition. Alors
enfin, la production littéraire en France, tu crois qu'elle est formatée aussi ?
Ah oui, extrêmement formaté, bien sûr. Ouais. Mais, c'est terrifiant. Alors donc, par exemple, ça m'est arrivé de fréquenter des auteurs qui se faisaient vider parce qu'ils ne vendaient pas, je ne sais pas, Grasset, par exemple. Clémence de Biéville, que j'aimais bien, enfin que j'avais rencontré pour des raisons anecdotiques, avait fait 4-5 livres chez Grasset. Et, Françoise Henry aussi, bon, il y a des gens comme ça que j'ai rencontrés pour différentes raisons qui m'ont parlé de leur rapport à l'éditeur, qui les gronde et puis qui les menace et puis qui les jette. Donc ça, c'est pas un formatage, alors je sais pas. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit tu n'en as vendu que 500, donc on peut pas te garder? Ça veut dire que tu dois faire quelque chose qui fait ce que tu en vends plus de 500. Donc il y a des formules. Il y a des formules.
Des recettes.
Il y a des recettes. Et c'est très marrant parce que j'ai vu un interview de la dame qui vend le plus de livres en France, dont j'ai oublié le nom. Et elle disait, je vais faire des couvertures moins girly, Enfin, elle était en train de raconter qu'elle allait rééditer ses livres, parce qu'il y a un gros conflit avec des rachats d'éditeurs. En ce moment, elle était chez Flammarion, c'était racheté par un méchant, donc ils vont chez d'autres qui sont moins méchants, tout ça. Et elle parlait d'elle-même comme un auteur complètement pute qui allait essayer d'être un peu moins pute. Donc, je dis respect. Je dis respect, là. Je
veux dire que dans ce sens-là.
Elle a l'air bien. Elle vend tellement de livres qu'elle s'en fout, quoi.
Ouais, c'est ça, elle vend bien.
Et elle disait, je vais faire des couvertures un peu moins mièvres, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça formidable.
Alors, tu envisages donc de tous les points de vue et tu prends aussi le point de vue du lecteur parce que. Dans la première partie du livre, tu parles surtout de toi, enfin de ton rapport à l'écriture. Et aussi, tu prends donc le point de vue du lecteur. Et alors, d'après toi, lire, c'est quoi ? C'est chercher à se reconnaître ou aller contre soi ?
Bah, c'est surtout... c'est vivre. Est-ce que c'est aller pour soi ou aller contre soi ? Et donc, comme moi, j'étais dans une génération qui était hégélienne et marxisante, etc., l'idée, c'était d'aller contre soi pour agrandir son univers. Si, par exemple, on était un homme, un mâle, adulte de 30 ans, on avait envie d'être une femme, un enfant, un vieillard... pour élargir son univers, pour pas être juste la pure expression d'un stéréotype, une chose... Et on voit bien ce que ça veut dire dans un univers romanesque, évidemment, si on veut. Mais là aussi, il faudrait être historique, générationnel et tout, parce qu'on n'avait pas vraiment de désir de roman narratif. Donc, c'est un petit peu compliqué aussi. Donc, il y a une chose ici qu'il faut dire, c'est que j'ai écrit ce livre en direct sur Facebook et qu'il y avait un fort apport des lecteurs. Et donc,
Qui interviennent d'ailleurs dans les livres.
Qui interviennent et il y a beaucoup d'air, quoi. Enfin, c'est pas du tout claustro, c'est plutôt une mise en débat collectif de ces problématiques. Et on voit bien qu'il y a un vrai enjeu, quoi, que ça intéresse tout le monde et qu'on cherche plutôt l'œuvre exceptionnelle que le tout venant. C'est un peu ça, hein. Il y a de ces radios, je ne sais pas, qu'on écoute, qui sont faites pour être écoutées dans la voiture et qui n'ont pas de remous, tout ça. Puis il y a des moments forts, il y a des concerts importants ou des films qui transforment vraiment la vie et puis des films qui sont juste là pour passer 2 heures et essayer de flirter avec sa voisine. Enfin, ce n'est pas la même chose.
D'accord. Et quand tu parles d'œuvres qui changent la vie, qui peuvent transformer une existence. Tu peux en citer quelques-unes pour toi, voilà, des livres sur lesquels tu es tombé et ça a changé énormément de choses.
Bon, ben, on pourrait dire Rabot, là, c'est vrai, quoi. Je veux dire, les pires des stéréotypes sont vrais. Il est évident que Dostoïevski, ça change complètement la perception qu'on a du monde. Mais on pourrait dire aussi, un point de vue purement littéraire, La Steppe de Tchekhov, par exemple, c'est une nouvelle. Et le fait de décrire juste un voyage avec le regard d'un enfant de 10 ans, ça transforme effectivement totalement la perception. C'est vrai de Stendhal sur la légèreté, sur l'espèce d'effet libellule, ça transforme totalement. Mais On peut vraiment prendre un beau, c'est un bon exemple, une saison en enfer sur le côté imprécation. Mais l'exemple que j'avais donné au début est peut-être le meilleur, c'est Henri Miller. On a été éduqués dans une forte répression sexuelle, dans une forte répression tout court. Et là, il y avait un mouvement de libération, il y en avait un avant et un après. C'est presque une image caricaturale de la liberté, en fait. C'est comme une description d'un continent inconnu. Les expériences. J'ai été très frappé aussi, par exemple, j'ai lu un livre sur la vie sexuelle de Sartre et de Beauvoir. J'ai eu l'impression d'être un cul béni en lisant ça. J'en venais pas à la liberté qu'ils avaient. Et bon, on peut continuer comme ça. C'est clair que quand on lit les mots de Sartre, on est sur le cul tellement c'est beau, quoi. C'est vraiment... Et puis, il le surjoue, il le met en scène. C'est tout au 14e degré. Et évidemment, le voyage, quand on lit ça, la première fois qu'on lit Céline... On est renversé. Mais c'est vrai aussi, bon, c'est chiant là, parce qu'ils en font trop, ça devient très très lourd, et en plus, c'est dirigé contre Céline, mais ils font un culte de Proust qui devient vraiment écœurant, mais c'est quand même très beau, Proust. Et surtout le Proust qui fait référence aux Mille et Une Nuits, parce que ça marche. Parce qu'on va dans une salle et puis il y a une porte secrète derrière et on ouvre la porte et derrière il y a un autre palais, c'est totalement inattendu. Et puis il y a une mare et à côté de la mare il y a un djinn et le djinn dit tu peux faire 3 vœux et tu fais tes 3 vœux et ces vœux se réalisent. Et tu oublies que tu es en train de lire dans les chiottes avec la petite veilleuse rose, tu es quelqu'un d'autre, tu voles dans les airs, tu as un putain de tapis volant. Alors qu'est-ce qu'elles viennent nous... Qu'est-ce que les gens viennent nous faire chier à écrire des romans sur leur quotidien dont on n'a rien à foutre alors qu'ils n'ont rien à dire et qu'ils sont partis en vacances en Thaïlande, qui crèvent.
Alors c'est marrant que tu dises ça, parce que je sens bien que tu vises l'autofiction finalement, qui est un courant littéraire qui est un peu apparu dans les années 80, qui a vraiment explosé dans les années 90 avec Henri Guibert, avec Christine Angot, donc toute cette autofiction que tu vises, je le sens bien. Mais pourtant c'est étrange parce que toi-même aussi tu parles beaucoup de toi et beaucoup de ta vie, de ton quotidien, de ton existence.
Non, mais je pense pas que ça soit une question de genre. Par exemple, il y avait un livre de Guibert qui se passe dans à la rue de l'Ap, là, ou à la rue... celle qui va à entre Voltaire et...
Rue de la Roquette.
Dans un bistrot de rue de la Roquette, que j'avais bien aimé, que j'ai lu en une demi-heure, et qui était très frais, qui était très beau. Ouais. Et donc, c'est très différent, par exemple, Guibert et Angot, alors qu'ils sont censés faire la même chose.
Donc, non, c'est que Angot reprend Guibert dans son livre L'Inceste, elle reprend pour un paragraphe, est une reprise de phrase de Guibert. Je crois qu'ils se sont rencontrés, ça j'en suis pas sûr, mais en tout cas, elle s'est affirmée dans sa continuité avec plein d'autres auteurs aussi.
Mon allergie à Angot vient d'une phrase sur son premier livre qui a marché, où je sais pas, son père lui met la main au cul dans un cinéma. Et c'est une phrase et ça continue et j'ai trouvé ça insupportable. Si on je donnerais comme anti-Angot et quelqu'un qui est très littéraire, c'est Duras. Et Duras, c'est toujours bien même quand c'est pas bien. Et il y a une espèce de violence chez Duras, comme elle viole les gens, ce qu'elle raconte, qui est d'une beauté extraordinaire, puis un dévouement à ce qu'elle fait. Et même quand elle est putassière, comme dans L'Amant, elle est bonne, quoi. Elle sait le faire. Et elle a vraiment payé, en plus, physiquement. C'est extraordinaire. Et c'est très marrant parce que un des meilleurs livres de Duras s'appelle La vie matérielle. Et c'est un interview, c'est pas un livre. C'est un putain de mec qui est en train de faire ce qu'on est en train de faire là. Et c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre quand elle parle de son addiction à l'alcool. C'est une merveille. Il y a brusquement une demi-page quand on a connu ça, qui est d'une beauté qui est absolument magnifique. Et Angot, elle pédale dans la semoule. C'est vraiment quelqu'un qui est laborieux, qui pose.
Moi, je ne suis pas d'accord pour ses premiers livres, en tout cas, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas la question. La question, c'est aussi, c'est quelle vie on a, parce qu'on peut raconter sa vie, mais il faut savoir, est-ce que cette vie est intéressante ou est-ce que quelque chose s'est joué dans cette vie qui mérite soit le blâme ou la louange ?
Alors, je pense qu'il faut complètement séparer la vie de la littérature. D'accord. Et que ça n'a aucune importance, et qu'on peut faire un roman formidable sur le fait de descendre les escaliers. J'habitais dans une chambre de bonne dans le sentier, Donc, quand il y avait, avant qu'il parte à Aubervilliers, où il y avait tous les... Là, c'était vraiment un endroit bizarre, formidable, sur une cour. Et l'escalier était monumental. Et je descends l'escalier, il y a un couple qui faisait l'amour et j'entendais la fille gémir. Et c'était d'une beauté extraordinaire. Et c'est 250 pages, quoi. Il faut arriver à décrire ça. C'est fabuleux. Et j'ai perdu cette chambre de bonne parce que le lit est passé à travers le plafond. Et ça aussi, ça fait penser au sexe. Et quand le mec vient installer l'électricité et que je lui file un billet de 50 francs à l'époque et que le mec le refuse et que je suis dans une merde épouvantable, que je ne sais pas quoi faire de moi, où j'avais deux chats assis à moi qu'on m'avait filé, il y en a un qui tombe par la fenêtre mais il se raccroche juste à l'étage en dessous. Enfin, il y a de quoi raconter. Mmh. Ça va très vite.
Alors, tu dis dans ce bouquin, 37 conseils pour réussir à ne surtout pas écrire un livre. Tu dis, écrire, c'est se plaindre, gémir, pleurnicher, c'est exprimer son mal-être, fondamental. Alors, côté épreuve et violence, on peut dire que tu as été servi dans ta jeunesse, dans ton enfance. Et pourtant, tu n'en fais jamais commerce. En tout cas, chez toi, ce qui l'emporte, c'est toujours la musique, la générosité, la tendresse, l'humour, aussi beaucoup d'humour. Et tu t'appelles toi-même le résilient.
Je pense que c'est vrai, oui. Je pense que... Bon, c'est chiant parce que ces termes, après, deviennent très énervants.
Oui, ils sont très employés en ce moment. Mais...
Comment il s'appelle le psy marseillais, là, qui a réussi son coup, qui a inventé le concept et qui vend des centaines de milliers de livres, là, justement, mais qui est très apprécié, je pense, pour quand même de bonnes raisons. Boris... Enfin, peu importe son nom, là. Mais c'est vrai que je suis résilient, donc c'est gagné, quoi. Ou tu meurs, ou tu survis, et après... Tu t'inquiètes pas pour des raisons anecdotiques. C'est bon, quoi, les petits problèmes de la vie de tous les jours. Et par exemple, je vois que c'est dans ma petite tribu, c'est quelque chose qui est passé, dans le sens où même au niveau de la maison, des autres gens qu'on fréquente, etc., les gens somatisent beaucoup, ils ont beaucoup de petites maladies, tout ça. Et ça, c'est mal vu, là. Donc, on le fait pas, c'est un genre qu'on pratique pas. Il faut vraiment que les choses soient graves pour qu'on s'en inquiète. Et c'est quand même assez agréable, quoi, Et donc, on est confronté à des vrais challenges. C'est tout toujours... N'empêche que ça reste très, très humiliant, quoi. On pourrait dire ça. Si vous ne vous sentez pas humilié quand vous écrivez, c'est que vous ne jouez pas vraiment à la partie.
D'accord, oui.
Vous n'êtes pas en train de jouer. C'est-à-dire que vous en foutez, vous pouvez faire autre chose. Donc, laissez tomber. Laissez tomber, ça ne sera pas intéressant pour les autres.
Céline va même plus loin dans ce sens-là. Elle dit, c'est être avec la mort, c'est faire face à la mort. L'écriture, c'est ça. Le rapport, ce qui compte, c'est ça. Et alors, par contre, ce que je perçois chez toi dans ton écriture, c'est que justement, il y a eu des épreuves, une enfance avec pas mal de violence et de manque. Et par contre, c'est pas ça qui a été un moteur dans ton écriture. On sent pas la revanche, on sent pas le ressentiment, on sent pas l'aigreur. C'est même tout le contraire, en fait. Il y a une espèce de forme de don, de générosité, de transmission, de force. Donc écrire, c'est ça, c'est pas régler ses comptes, en fait.
Bon, je pense que c'est long, hein, c'est lent. J'ai écrit un livre qui s'appelle Maman, et j'en avais fait une première version où le fils était le héros et la mère était une marâtre. Et un jour, je me suis levé et j'ai trouvé une formule, en fait. On parlait de l'Oulipo avant d'être à l'antenne, là, sur les contraintes. J'ai pris comment c'est de Samuel Beckett, j'ai compté combien il y avait de signes c'est des paragraphes avec des blancs. Donc il y a 10 lignes, il y a une ligne où il n'y a pas de texte, 10 lignes, il y a une ligne où il n'y a pas de texte, etc. C'est assez théâtralisé. J'ai compté le nombre de signes et j'ai découpé ce que j'avais écrit comme ça. Donc j'ai refait le livre et le fils est devenu brusquement un personnage tout à fait falot qui écoutait sa mère parler. Et c'est le livre que j'ai écrit que les gens préfèrent en général.
Oui, moi c'est celui que je préfère aussi.
Et donc ça veut dire que pendant très longtemps, mon aigreur se manifestait, que j'écrivais ça. Et mon premier livre, par exemple, que j'ai publié en 73, est un livre misogyne qu'on ne peut pas relire aujourd'hui, qui est un livre assez, assez bizarre et qui n'est pas écrit en plus, dans lequel il y a une citation de Pollan sur l'écriture qui fait 3 pages du livre, une citation ou 4 pages. Et donc c'était déjà la même problématique, mais je crois qu'on va écouter bientôt un petit morceau de musique, on va faire une pause.
Comme tu veux. Allégre FM, Allégre FM, FM, 93.1.
Ah.
et donc c'était Jean-Michel Jarre, et on avait une danse de robot, là, vous pouvez imaginer facilement le clip. Et on est quand même 11h33, donc vous êtes réveillés dans vos voitures. J'espère que vous n'êtes pas pris dans des embouteillages. Nous sommes sur Allegre FM 93.1. Et nous parlons du livre que vous allez acquérir aujourd'hui même, parce que vous allez l'acheter sur Amazon. D'Yves Tanret, 37 conseils pour réussir à surtout ne pas écrire un livre.
Alors, tu peux aussi l'acheter sur Kobo, Fnac, donc sur une plateforme qui n'est pas américaine, et aussi sur Apple et Google Play. Donc, voilà.
Qu'est-ce que c'est Kobo ?
Kobo, c'est pour les liseuses, tu vois, les liseuses Fnac. Donc
c'est le monde moderne que je connais pas. Voilà, c'est
bien. Et puis après, ça sera disponible en librairie, à la commande, et puis après, présent dans les meilleures librairies parisiennes. Donc, on vient d'écouter de la musique. Est-ce que la musique, c'est important pour toi dans ton rapport à l'écriture ? Est-ce que ça t'influence ? Est-ce que ça t'aide ? Est-ce que tu cherches à t'en approcher ou à t'en éloigner ?
Ça serait mon idéal, oui. Ça serait, c'est l'idéal inatteignable, mais il est évident que mon modèle est musical et que c'est quelque chose d'inépuisable et que c'est vraiment génial. Et que même j'ai tendance à identifier ce que j'aime beaucoup en littérature à la musique. En fait, c'est le compliment suprême pour moi. Les choses qui sont légères, aériennes ou bien charpentées même. Mmh. Ça peut aussi taper des pieds, mais il y a taper des pieds et taper des pieds. Mmh. Quoi. Je veux dire que c'est quand même formidable. Quoi. Et j'ai eu un temps de retard avec les punks, par exemple, parce que c'était un petit peu les petits frères gémissants. Quoi. On les voyait en vrai. Puis j'étais à des concerts dans des maisons de la culture un peu sordides où ils jouaient la danse des canards. Et évidemment que leur pogo, tout ça, ça me paraissait un peu dérisoire. Ouais. Mais après coup, je me suis aperçu que j'aimais beaucoup ça. Et j'ai découvert aussi tardivement le rock industriel. Et je suis très, très fan. Et vraiment, c'est formidable.
Parce que quelque part, tu viens un peu de là, dans le sens où tu es, toi, fan de Dada.
Et ou oui, même,
voilà. Ou de, donc, bien plus que les Surrealistes, d'ailleurs.
Et Nobotten ou Trombringris, etc. Ouais. Ressemblent beaucoup à ce que j'essaye d'écrire dans les 37 conseils pour ne pas écrire un livre. C'est très personnel, c'est quand même... Et le mec, par exemple, a eu une saloperie, là. Le mec Genesis Porridge. Il y a sa copine qui a écrit un gros livre que j'ai lu. Et c'est vraiment une crapule finie. Et bon, ben voilà, c'est ça, quoi. C'est l'effet Dostoïevski. C'est pas un monde de saints, quoi. Mmh. Et le mec est immonde, quoi. J'ai aussi lu, par exemple, une biographie de Picasso, mais à charge, d'un point de vue féministe. J'essayais de le défendre. Je faisais une petite chronique régulière, tout ça. Je vais faire une pige. Mais à un moment, il écrase une cigarette sur la figure de Françoise Gillot, une cigarette allumée. Mmh. Tu pleures, quoi. Tu souffres. Tu peux pas. C'est pas possible. Ouais. Et en même temps, c'est tellement frais, quoi. Le vieux faune de fin de vie, c'est tellement beau, quoi. Cette espèce de bite sur pied qui danse. C'est magnifique. Et il fait des conneries, il fait des assiettes, et c'est bien. J'ai écrit une monographie sur un peintre qui est arrivé à Paris, ne pas je raconte des conneries, mais en 55, disons. Et il est fan de... Ouais, ça doit être ça, parce qu'il meurt en 65, mais c'est ça. Et il est fan de Picasso, et c'est quand même génial, quoi. C'est-à-dire, ces trucs de Valoris, c'est quand même assez niais, ce qu'il faisait. C'est des faunes et des chèvres sur une assiette avec des petits soleils dessinés comme un enfant. Et ça a la fraîcheur du soleil, quoi. Ça a la fraîcheur d'un matin où on a fait une nuit blanche et on est là et on est content. On a les maîtres du monde, on rentre chez soi en titubant. On a hurlé sa rage et on est beau.
Mais justement, il y a là aussi où je t'affiliais à ce courant-là un peu dadaïste punk, c'est aussi que tu as bien connu le milieu situ et tu as écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle « Comment j'ai tué la troisième internationale situationniste ». Et donc tu connais bien ce milieu qui se réclamait aussi de Dada, de Breton.
Absolument, oui. Donc et ce milieu avait... Donc il y a quelque chose aussi, c'est ce que je disais de Proust, ça joue aussi pour Debord. Ça devient un fait que la panthéonisation de Debord est vraiment insupportable. Il y avait une émission la semaine passée sur France Culture, Debord et la poésie, il faut qu'ils arrêtent de nous faire chier. C'est vraiment insupportable. Et en plus, c'est un Debord préchi-précha, le pire des Debord.
C'est le catéchisme
debordien. C'est le catéchisme debordien, c'est vraiment immonde, quoi. Et avec des phrases vides sur la société du spectacle.
Ouais,
tout
je
ça.
Vais dire le mot spectacle, et voilà.
Et Et c'est pas ça du tout. Mmh. Ce qui était bien, c'était ce côté d'adolescent attardé qui aimait les séries B américaines, qui aimait la bande dessinée. Debord est membre du club des amis de la bande dessinée au début des années 60, à la fin des années 50. Ce qui est bien, c'est Yorn, c'est le groupe, c'est Kayati, c'est
le mouvement plus que l'individu.
C'est tout à fait le mouvement, et alors c'est ça que je voulais dire, il voulait transformer le quotidien. Et c'est cette dimension-là qui est très importante. Parce que justement, on pantonise un Debord en surplomb. Alors que c'était en dessous, parce que mon situationnisme à moi, il était totalement au quotidien. Mmh. Et ce que raconte comment j'ai tué la troisième internationale situationniste, c'est un garçon qui est complètement paumé, qu'on invite dans une conférence où il y a des gens de tous les continents, du monde entier, qui est dans un gymnase au mois d'août à Paris. Il fait très chaud. Ils n'ont pas le droit de fumer, ils n'ont pas le droit de boire. C'est des gens qui boivent tout le temps, qui fument tout le temps, qui arrivent là, qui ont encore la gueule de bois du jour d'avant, qui vont s'empailler très très vite. Et ce garçon qui a été invité là-dedans, qui ne connaît pas ce genre de milieu un peu scout quand même, malgré tout, il va déconner et il va foutre un bordel sans nom. Et le gourou, le leader, parce qu'il y a toujours un gourou, il y a toujours un leader, va prendre le parti du garçon perturbateur. Et donc, et d'ailleurs, je parle de la chambre de bonne. Avant, c'était chez le gourou, cette chambre de bonne. Ça va aller très loin. Ils vont carrément, lui et sa copine, l'adopter. Et s'occuper de lui, et c'est assez marrant quoi, comme aventure.
Ça, c'est très important, cette notion chez toi, dans toute ton œuvre. C'est que, effectivement, le rapport à l'art, ce n'est pas juste un rapport d'esthète ou d'admirateur de belles choses. C'est surtout quelque chose qui cherche à transformer la vie, comme tu dis.
Mais la vie quotidienne.
Et c'est de faire de sa vie une œuvre d'art.
Absolument, c'est ça, l'aspect Rimbaud, bien sûr. C'est évidemment que c'est ça. Et que si c'est pas ça, bon, ben c'est une histoire d'employé de bureau, et à ce moment-là, ça me concerne pas. Mais il y a un public pour Courteline, et je pense que Courteline, ça doit être tout à fait respectable. Enfin, ça peut être bien. Comme il y a un public pour Cyrano de Bergerac, comme il y a des gens qui vont au théâtre, par exemple. C'est quand même une activité qui ne me concerne pas. Je n'ai pas été dans un théâtre depuis 50 ans, mais je ne vais pas aller dire du mal des gens qui vont à la Comédie française. J'en ai rien à foutre. Il faut que les dames de 50 ans, un peu délaissées avec leurs petits-enfants, ça leur fait une activité.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est fait pour transformer la vie. Et c'est ce que dit Artaud, surtout, ça c'est très important. Artaud déplore le fait qu'il n'y ait plus d'œuvres d'art qui transforment notre existence, qu'on est des spectateurs et qu'on regarde des ombres. C'est un théâtre d'ombre et finalement, ça n'agit plus sur nous. Alors que lui se pose la question fondamentale, quand il voit le théâtre Balinais, il se pose la question, c'est comment on passe de la forme à la force.
Alors c'est marrant parce que je suis vraiment un punk, quoi. Mais c'est un truc d'après-coup. La force du punk, c'était d'être devenu un adjectif comme de sadique ou masochiste. Mm-hmm. Donc il y avait un auteur qui s'appelait quelque chose qui a donné masochisme.
Ouais, Sacha Mazak.
Il y avait un auteur qui a donné le terme sadique et de la même façon, punk est un adjectif. Et Artaud m'énerve prodigieusement, mais uniquement à cause de ses lecteurs. C'est insupportable pour moi d'avoir en face de moi des petits bourgeois qui font allusion à Artaud. Il avait un cancer à l'anus. Il était un cambrioleur de pharmacie.
À la fin de sa vie.
Ouais, non, il souffre énormément et il est tout le temps raide défoncé. Et les mecs sont pas à la hauteur. Et donc, c'est l'effet, le festin nu de Burroughs. Il y a un vécu qui est une façon de payer sa part. Donc, pour moi, Artaud, c'est trop loin de moi. Il y a trop de pathos, en fait. Je déteste le pathos.
Ouais, ouais.
C'est très paradoxal, mais je ne crois pas que j'ai mis beaucoup de pathos dans ce que j'ai fait. Je ne m'en rends pas compte. En fait, tu dois mieux te rendre compte que moi.
Non, mais justement, effectivement,
il y a beaucoup de pathos. Alors, le pathos, pour plus un petit bourgeois en costume trois pièces en face de toi qui te casse les couilles, qui a pris l'œuvre complète d'Artaud dans son attaché-caisse, je dis non, merci.
Alors, il y a quelque chose qui résume très bien tout ça. Si vous voulez vous faire une idée plus précise, d'Yves Tanray, comme écrivain et comme personne, c'est un livre qui te résume bien, qui pour moi t'identifie bien, c'est presque un autoportrait, ça s'appelle Portrait de l'artiste en révolté.
C'est une série de monographies sur des artistes, et effectivement, Il y avait par exemple, je me suis fait une copine avec ses émissions qui s'appelle Marielle Primois et qui m'avait dit « On voit ce que tu veux dans Portrait de l'artiste en révolté ». Alors je ne m'en rends pas compte parce que c'est l'œuvre d'une vie, ça ne s'est pas fait. J'ai fait par exemple en 83, sous Raoul Haussmann, Fred parlait de Dada, donc c'est un dadaïste. J'ai fait une petite monographie, ah, le texte d'une petite monographie, pardon. Le texte d'une petite monographie qui avait été publiée à Bretigny-sur-Orge, qui est un bled qui est à 30 km de Paris, en typo. Et donc, dans cette monographie, il y a ce texte sur Haussmann. Et donc, c'est, tout est un peu comme ça. Et ça commence par Jérôme Bosch. Et donc, c'est, moi, je viens de Bruxelles, donc je viens du Brabant flamand. Ouais. Et Bosch vient aussi du Brabant flamand. Donc, c'est mes racines. De la même façon, il y a James Ensor. Dans Maman, c'est la mort d'une femme qui meurt à Ostende, qui est la ville de James Ensor. Donc on a des trucs comme ça. Dedans, il y a Jorn. Et Jorn, donc, c'est un des situationnistes. Alors le boulot que j'ai fait pour écrire ce livre, c'était sur Courbet. Et Courbet, un personnage formidable, extrêmement attachant. Il y a du Buffet dedans. Là aussi, j'ai un rapport extrêmement difficile. Donc, j'ai fait un bac comme candidat libre à 23 ans. Je suis rentré à Lausanne, à l'université, à 24 ans. Et mon premier exposé, c'était sur l'art brut. Et à l'époque, il n'y avait pas le musée de l'art brut qui s'est ouvert en 78 ou en 79. Donc là, on est en 75. Et j'étais très fortement contre le pathos que générait l'art brut. C'est-à-dire que d'un côté, j'étais fasciné. Parce que c'est un côté lutte des classes, en fait. Hein. Donc, c'est un art de pauvre, d'exclu. C'est un art totalement rimbaldien aussi. Mmh. C'est un art qui vient d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, je détestais les cartels. C'est quelque chose qu'on déteste. C'est la compassion, la pitié, la charité. Toutes ces choses sont haïssables. Hein. Je suis encore très, très partagé tout le temps. C'est très difficile pour moi, la question du clodo sur le trottoir. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, ça reste une question ouverte, ce qui est là. Ce qu'il faut, parce que j'ai grandi dans la lutte des classes. Ouais. S'il y a quelque chose qui m'a fait pleurer, c'est la Commune de Paris. Je pleure quand on me parle du mur des fédérés. Et je n'ai pas du tout de compassion. Alors ça, c'est quelque chose que j'ignore, y compris pour moi-même. Ça commence comme ça.
Oui, c'est bien ce que...
Et donc c'est ça, c'était cette question de 37 conseils, surtout pour ne pas écrire un livre. Ne vous rendez pas service. Violez-vous. Bon, bref, c'était pas ça.
Non, mais il faut être impitoyable. C'est vrai qu'il faut être... Si, c'est tout à fait ça. C'est que tu dis quand même qu'il faut être impitoyable avec soi-même. Si on veut écrire, il faut savoir qu'est-ce que ça coûte? Quelle part de soi-même on va devoir sacrifier? En plus, je t'avais dit tout à l'heure que tu envisageais le livre sur plusieurs points de vue. Tu le vois même d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire que tu mets bien en garde, c'est quelqu'un qui s'inventaire dans l'écriture. Socialement, il prend des risques.
Ouais. Et puis, on a quand même beaucoup de drogués, beaucoup de morts, beaucoup de...
C'est ça, ouais. De fous. D'internés, de suicidés.
D'où la question de l'art brut, là, par exemple, tout ça. Parce que là, la compulsion à faire est évidente. Enfin, c'était ça, le critère. Et donc, dans les monographies, je ne sais plus combien il y en a, mais dans le portrait de l'artiste en révolté, qui est une commande de Colette Lambridge, donc, qui dirigeait La Différence, avant une série d'aventures capitalistiques qui la prive de La Différence, mais qui m'avait commandé ce livre. Donc, ça finit par Du Buffet. Et j'ai beaucoup d'estime pour Du Buffet aussi, qui était un personnage vraiment bizarre, mais qui est aventureux toujours. Qui est quand même quelqu'un qui découpe une plaque de goudron sur la route et qui l'expose. Enfin, qui a une capacité d'invention, de remise en question. Et là, par exemple, on est bien... Et c'est pas, il faut bien voir que ces 37 conseils ne donnent pas de réponse, ne posent que des questions. Et par exemple, cet art brut peut devenir horrible si à un moment donné, avec ces échanges sur Facebook, à un moment j'échange avec quelqu'un qui évoque ce Du Buffet arpentant en 47-48, donc juste après-guerre, les hôpitaux psychiatriques pour aller chercher des œuvres de fous. Et c'est un côté dégoûtant, c'est un côté vraiment répugnant. En même temps, on aime Aloïs. Aloïs est une dame qui voit passer l'empereur Guillaume II d'Allemagne à Zurich au début du XXe siècle et qui devient folle et qui est internée et qui toute sa vie, en fait, sera une travailleuse dans un hôpital psychiatrique qui fera le repassage, tout ça, et qui fait des immenses rouleaux et qui fait des phrases... absolument magnifique et des dessins magnifiques. Et elle dit, on ne peut pas s'embrasser, nous autres, parce qu'on a tout de suite envie de mordre, enfin, des choses comme ça.
Ouais, c'est beau.
On y est, quoi. On est tout de suite dedans, quoi. Putain, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de chichi autour, il n'y a pas, y a pas de nappe, il n'y a pas de papier peint, il y a...
Ouais,
mais on est à l'os.
Oui, c'est vrai, ouais, sur l'os nu. L'os à nu, oui.
L'os nu.
Mais c'est, oui, tu es un peu aussi... Enfin, tu viens vraiment de là. C'est une certaine forme de marginalité, d'écart, même et de refus assumé. Alors, des fois, le refus n'est pas toujours choisi. L'exclusion n'est pas toujours choisie, des fois elle est subie, mais une fois qu'elle est subie, elle est acceptée et elle finit par être revendiquée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une littérature et un art d'exclu dans ton travail, qu'on retrouve beaucoup.
Ben c'est, je ne sais pas si on prend une usine à produire comme ça, par exemple, puisque j'ai parlé de la Belgique, Henri Michaud, par exemple, on a le meilleur et le pire, quoi. Et donc on a aussi le côté aventureux, le côté prise de risque, et à un moment donné... Bon, c'était un petit peu le parti pris des avant-gardes en général, d'ailleurs, quelle que soit leur couleur politique, c'était de refuser le confort, quoi. Alors ça a quand même donné des choses comme le fascisme italien, quoi, ou le totalitarisme russe, mais bon, là, les mecs, ils ont payé, et ils se sont suicidés ou ils sont morts assez vite, quoi. On peut prendre Mayakovsky. Et on ne sait pas, d'ailleurs, comment ça vieillit, en fait, hein, mais dans Mayakovsky... quand il dit « Dites à Anna et à mes sœurs qu'il ne sait plus où aller », c'est extraordinaire, quoi. C'est, ça suffit, quoi. C'est, il faut arriver... On marche sur un fil, quoi. Ça, c'est... L'image de Genet est bien, quoi. C'est puisqu'on prenait le Artaud, peut-être que l'image que je me fais, moi, de ce genre de problématique, c'est Genet.
Oui, tu en parles.
Et ça, c'est bien, quoi. C'est toujours... il sait être juste, il est... il a cette dimension, quoi. Il y avait quelque chose là qui... Lui qui vivait avec un funambule qui s'est suicidé, mais il y a quelque chose de juste, quoi. C'est vrai, quoi. C'est espèce,
ouais,
espèce
de... Donc ton livre aussi, ce qu'il y a de bien en fait dans ce livre, c'est que tu décris pas ce qu'est la littérature, tu cherches à dire ce qu'elle n'est pas, en fait. C'est presque de la littérature négative que tu fais. C'est par contraste, en creux.
Alors, je suis fasciné par Maître Eckhart, quoi. On peut définir Dieu que par ce qu'il n'est pas.
Ouais, ouais.
Et ça correspond profondément à ma nature, quoi. Je pense que lutter contre soi, c'est fait, quoi. Et bon, j'ai été impressionné par Nietzsche, mais il est tellement malheureux, que c'est tellement pathétique, mais c'est un exemple formidable aussi. Mm-hmm. Mais Nietzsche dit qu'il faut aller dans le sens de sa pente. Alors, il dit ça aussi dans un contexte où c'est un universitaire qui est quand même dans un domaine qui est la philologie, en fait. Il fait, c'est pas très aventureux ce qu'il fait quand il est universitaire au début. Et il va transgresser, chaque fois, il va pousser la barre plus loin, tout ça. Mais, alors, j'ai lu une biographie en 3 volumes énormes de Nietzsche.
De Kurpold Jantz, c'est
ouais,
ça ?
Oui, c'est ça, oui. Et il est tellement touchant à chaque fois qu'il approche une femme. Enfin, il propose le mariage. Il rentre dans un hôtel, il y a une femme qui fait la file. Il lui dit, viens, venez, on va se marier. Je pense qu'il a besoin.
Et, le rapport avec Louis-Andréa Salomé. Enfin,
alors là, c'est... là aussi, c'est un personnage avec Rilke. Parce qu'on est là, on est dans le fétichisme littéraire, mais... C'est la maman de Rilke, par exemple. Et puis, il y a Freud, après. Et là, je viens de me réconcilier avec Freud à cause de Marie Bonaparte, qui a introduit la psychanalyse en France. Et elle est complètement folle. Elle se fait opérer. Elle veut jouir. Ça, c'est un vrai écrivain. Le but de la vie de Marie Bonaparte, c'est de jouir dans la vie. Et elle fait des opérations, elle fait des trucs invraisemblables. Et je pensais Freud très misogyne, mais elle a du fric. Là, on retrouve l'aspect de bord, l'aspect putassier de ces gens. Par exemple, Freud visiblement adore le fric et est très sensible aux reconnaissances financières.
Comme Lacan aussi en son temps,
absolument,
à l'époque.
Ouais. Mais Lacan a une dimension ironique et drôle qui est quand même cynique. Que n'a pas du tout...
Mais qui avait le tableau de Courbet dans son...
Enfin, je ne voudrais pas parler de Lacan, parce que c'est un personnage extraordinaire, parce qu'on n'arrive pas à le lire, par exemple, alors que ses séminaires sont formidables, mais on n'arrive pas à le lire. Et puis, alors, bon, moi qui connais bien James Jones, il fait un truc sur Jones qui est mensonger, il ment, il a l'air d'un gamin, et c'est très mauvais. Tout ce qu'il raconte, c'est pas fait, quoi. Et j'ai vu ce matin, en me levant, qu'il y avait un livre de Derrida sur Joss dont je n'ai aucun souvenir. C'est pas bon signe non plus. Mmh. Donc il y a des épreuves obligées comme ça qui ne fonctionnent pas. Mais Freud est quand même l'image même du bourgeois. Hein, on se sent un peu sale quand on va chez quelqu'un chez Freud, parce que c'est trop propre, et puis qu'il y a des œuvres d'art, tout ça, sur sa table et tout. Puis il parle normalement avec Marie Bonaparte du vagin de Marie Bonaparte, en fait. Je sais pas, il faudrait lire. Ça vient d'être publié en français. C'est d'ailleurs très, très marrant.
Alors, tu as cité Joyce. Et Joyce, c'est effectivement, je voulais en venir avec toi, parce que c'est, je crois, la plus grande influence, en tout cas l'auteur qui a le plus compté pour toi.
Mais parce que j'ai payé un droit d'entrée très cher, quoi. J'ai réussi à lire Ulysse qu'à 30 ans, suite à une rage de dents. Et j'ai dépassé enfin la page 75. Et brusquement, j'ai eu un moment de bonheur, comme ça, comme dans Les Mille et Une Nuits. Je suis passé de l'autre côté. Et il y a dans... Mais c'est pas Joyce, c'est Ulysse. C'est en plus parce que Finnegan's Wake, c'est vraiment habitable pour nous qui ne maîtrisons pas assez l'anglais. Enfin, pour moi qui ne maîtrise pas assez l'anglais pour y être à l'aise. Et avant, c'est quand même, c'est très sympathique, mais enfin, c'est pas génial. Tandis qu'Ulysse, c'est absolument génial. Il y a un mec qui se branle, il y a un mec qui est sur les chiottes, tout est formidable. Et il y a vraiment des chapitres imbitables qui sont illisibles, mais c'est une putain de musique. Et ce qui fait du monologue intérieur, c'est quelque chose qui est la musique dans son essence même. Il y a tout. C'est le mec le plus musical de tous les temps. Alors là aussi, à force, on suce, quoi. Il y a trop de... Toujours l'idolâtrie, le culte et tout. Ça me dégoûte, par exemple, le jour pour Joss en Irlande, alors qu'il le détestait, et pour des bonnes raisons. Et le rapport de Joss à... Joss pensait que les Irlandais étaient un tas de crétins quand même, il faut arrêter de... Et ça, c'est vachement bien, il ne voulait pas prendre parti. Il est punk, lui aussi, par exemple, il fait des provocations à Hitler sur les Champs-Élysées quand il est bourré. Il faut voir le personnage, quoi. Toute sa vie, il est bourré. Et que les... Mais je ne veux pas que les gens lisent Joss, c'est très compliqué, c'est emmerdant, ce n'est pas ça. Il est évident que... Le Céline du voyage, c'est autre chose. Mais là aussi, s'il n'y a pas de peuple, par exemple, et que la littérature prolétarienne me dégoûte, donc on est... Et ce que j'aime chez Joss, c'est comme ce que quelqu'un qui n'écoute pas de musique classique pourrait aimer dans... comment ça s'appelle ? Il y a un morceau de piano de Debussy qui passe très très bien. C'est de la musique classique, mais ça a l'air d'être de la musique de cinéma. En fait, c'est le monte à l'envers... Ça va, quoi. Ça n'a pas l'air prétentieux, ça n'a pas l'air de la musique bourgeoise, c'est pas écrasant. On n'est pas obligé de mettre une cravate pour l'écouter. Donc ça va. Et il y a cet aspect-là, quoi. Mais...
Et tu as ça en toi, en fait. Il y a quand même l'idée que tu... Enfin, que tu es révolté, mais que cette aspiration à la révolution, elle est passée dans l'art et non pas dans la politique.
Mais là, c'est bien le mot révolté, parce que je ne suis pas révolutionnaire. Je ne suis pas un bureaucrate du truc, je suis juste révolté. Si on me frappe, j'ai le choix entre me mettre en boule et puis trouver le moyen de m'en sortir. Donc, j'étais chef de bande, quoi, parce que pour pas se faire frapper à l'internat, on développe la tchatche. Et donc je ne suis malheureusement plus assez frais pour rentrer dans le rap, mais il y a quelque chose de cet ordre-là et qui était très flagrant dans Public Enemy. Et le Public Enemy, Jossien, le premier album, quand ils mettent 100 000 morceaux dans leur tube, en élément de 15 secondes, c'est Joss. Là, on a compris. C'est comme par exemple les trois premiers chapitres de Joss, mais c'est toujours très très bien après.
C'est magnifique de finir sur Public Enemy et Joyce qui sont comparés et mis ensemble. Merci beaucoup Yves Tinrain d'avoir répondu à mes questions et je vais reprendre les rênes de l'émission puisque c'est la tienne.
Et donc nous étions sur Aligre FM 93.1 et nous avions un invité totalement exceptionnel ce matin. Et nous remercions Pierre Leborn qui était de l'autre côté de la vitre ainsi que Enrico Mastro Giovanni et Amazir Amadein Guest. Et donc, merci à vous et je me réjouis de vous revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons quatre invités. Une femme qui a écrit un livre sur Truffaut, deux dessinateurs formidables, Muso et Yoko, et une dame qui vend ses peintures à la porte de Bagnolet qui vient nous annoncer cet event. Donc, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.